explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Parfois, du fond des grottes, jaillit la lumière. Il y a un peu moins d'une trentaine d'années, un adolescent spéléologue découvre une grotte dans le Tarn-et-Garonne, non loin de Bruniquel. Apparemment, rien d'aussi spectaculaire qu'à Lascaux ou Chauvet. Pas de peinture rupestre, des concrétions et une étonnante structure faite de morceaux de stalagmites juxtaposés. Des scientifiques viennent jeter un œil, on évoque le possible passage de l'homme de Néandertal sur les lieux. Et puis, plus rien, pendant presque 20 ans, jusqu'à ce que l'on décide d'y retourner et d'approfondir les investigations. On comprend alors que la grotte abrite la plus ancienne construction humaine au monde. Une découverte majeure qui vient bousculer quelques idées au sujet de notre cousin injustement méprisé, l'homme de Néandertal. Parfois, du fond des grottes, jaillit la lumière.
L'exploration scientifique, y a rien de plus lyrique, on étudie la vie de manière empirique.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Jacques Jobert.
Bonjour.
Vous êtes préhistorien, professeur à l'université Bordeaux, co-auteur avec Bruno Moreil de l'ouvrage Petit vocabulaire de Néandertal aux éditions Confluence. Vous avez participé aux récentes découvertes faites dans la grotte de Bruniquel et vous allez donc pouvoir nous raconter cette aventure scientifique majeure. Et puis en deuxième heure, nous nous intéresserons au voyage du plus célèbre des reporters de la bande dessinée. Il est allé en Chine, au Tibet ou encore en Sildavie. Je veux parler de Tintin. Nous serons en compagnie de Benoît Peters et Michel Pierre, deux grands spécialistes de Hergé et de son héros à la houppette. Voilà pour le déroulé du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne. Elle a été préparée par Hugo Struna et Mathieu Aoued.
Depuis quand exactement l'homme s'aventure-t-il dans les grottes ?
On pense à Lascaux, à la grotte Chauvet en Ardèche. Là, les écritures remontent à 37 000 ans. On découvre aujourd'hui que l'homme de Néandertal explorait déjà le sous-sol il y a 140 000 ans dans le Tarn-et-Garonne. C'est l'exploration de la grotte Bruniquel en surplomb de l'Aveyron qui vient de le prouver.
Nous étions le 25 mai 2016, c'est relativement récent, un peu plus d'un an tout juste. La grotte de Bruniquel s'invitait dans le journal de la matinale sur France Inter. Pourtant, Jacques Jobert, elle était déjà connue depuis bien longtemps cette grotte.
Oui, en effet. C'est au début des années 90 qu'un jeune spéléologue a fait ce qu'on appelle une désobstruction, c'est-à-dire qu'il a forcé un passage qui était naturellement éboulé pour rentrer dans une grotte qui n'avait jamais été visitée par aucun humain depuis plusieurs milliers d'années. Ouais. Et il a fait cette découverte. Il l'a très rapidement mentionné à d'autres spéléologues. Et comme vous l'avez rappelé, des archéologues préhistoriens sont venus expertiser cette grotte qui dispose d'un très riche patrimoine.
Ouais. Alors l'entrée, toute petite, ce jeune spéléologue adolescent, il tombe sur une sorte de terrier de lapin et il doit un petit peu dégager l'entrée. Personne ne l'avait vu cette grotte.
L'entrée, c'est toujours une horreur au quotidien pour les archéologues. Parce que nous sommes archéologues, nous sommes préhistoriens, nous sommes aussi parfois un peu spéléologues. Mais les spéléologues, évidemment, eux sont habitués à ce genre d'exploit. Donc passer dans des boyaux très, très étroits, on appelle ça des chatières. Et actuellement, toujours, les spéléologues qui sont chargés de la conservation de la grotte et de nous accompagner, souhaitent, ainsi que le propriétaire, garder le site en l'état. Ouais. Et donc, ils veulent absolument, et ils ont raison, c'est une politique à laquelle on souscrit, garder l'entrée dans son état le plus originel possible. Et donc, on continue à faire une spéléologie un peu sportive avant de rentrer dans la grotte. Mmh. Après, une fois qu'on on a franchi ces étroitures, la circulation est un petit peu plus facile.
Entrée un peu sportive, au point que certains de vos collègues ont renoncé à aller dans cette grotte.
Écoutez, je n'ai pas désespéré d'en convaincre certains, ou plutôt certaines, elle se reconnaîtra si elle m'écoute, et c'est quelqu'un pourtant de très sportif, mais voilà, certaines appréhensions ne se commandent pas, il y en a qui ont peur du vide, donc d'autres ce sont les étroitures des grottes, des entrées de grottes.
Alors si je vous demande de me situer précisément l'entrée de cette grotte, qu'est-ce que vous me dites ?
De vous situer précisément, il en est absolument hors de question.
Eh oui.
Tout simplement parce que nous souhaitons, enfin les services patrimoniaux en charge de la conservation de la grotte et les propriétaires, et les spéléologues, et nous-mêmes souhaitons garder une certaine discrétion sur une localisation, enfin sur la localisation de l'entrée au moins. On sait que c'est sur la commune de Bruniquel, on a compris que c'était en rive gauche de l'Aveyron, voilà, on n'en dira pas tellement plus, sinon que c'est à peu près une cinquantaine de mètres au-dessus du lit actuel de l'Aveyron, tout simplement parce que c'est une propriété privée, et voilà.
Mais c'est-à-dire qu'avec ces informations-là, On ne retrouvera pas l'entrée. Elle est si dissimulée que ça, on ne peut pas la trouver si on ne sait pas où elle est.
Non, parce que de toute façon, c'est une propriété privée qui est clôturée, donc ce n'est pas la peine d'échec. Enfin, je pense que certains ont déjà essayé, ils n'ont pas réussi, heureusement, fort heureusement.
Alors vous, Jacques Jobert, vous y êtes allé très tôt dans cette grotte, après sa découverte dans les années 90. Vous vous souvenez de la première fois que vous y avez mis les pieds, c'était quand ?
Oui, la seule fois avant la reprise des travaux avec ma collègue belge Sophie Verheyden et Dominique Gentil, j'avais visité cette grotte. J'étais à l'époque, je n'étais pas professeur de préhistoire à l'époque, j'étais dans le même service que François Rouzeau, qui est le préhistorien qui avait expertisé et qui menait des travaux avec Michel Soulier. Et donc, la date, je n'ai pas vérifié, je pense que c'est 1993 ou 1994, je ne me rappelle plus. Ouais. Mais j'ai donc visité, la seule fois d'ailleurs, sous la conduite de Michel Soulier et de François Rouzeau, cette cavité. J'ai eu des impressions, j'ai même fait un pronostic, j'étais impressionné par la grotte.
Ah ouais, mais il faut que vous nous décriviez cette première rencontre avec la grotte.
Ah, pour un préhistorien, c'est toujours assez, comment dire, assez émouvant de pénétrer dans une cavité nouvellement découverte qui est assez assez riche. Il y a pas mal de vestiges paléontologiques osseux dès l'entrée de la cavité. Il y a une sorte de gisement paléontologique dont on parle assez peu d'ailleurs, qui est probablement pas en connexion avec ce qu'on trouve un petit peu plus dans l'arrière-fond de la cavité. Et donc après, il y a un long couloir, mais qui est un long couloir qui mène à cette fameuse salle où il y a les structures. Et ce long couloir est magnifique. Il y a des petits lacs souterrains, il y a des draperies de calcite translucides. La grotte est impeccablement conservée. C'est un site naturel majeur. Mmh. Déjà, rien que pour le côté environnemental, souterrain, c'est majeur. Et puis après, donc, on arrive à ces fameuses structures sur lesquelles on va revenir, je suppose.
Donc là, on arrive, ben allons-y, décrivons-les, ces structures, ne nous faites pas languir plus longtemps. On arrive au centre, cette salle centrale, je crois, une demi-heure de marche à peu près
Ça dépend si on est lourdement équipé, encadré, si on fait une visite en s'arrêtant à chacun des points intéressants qui mènent à cette salle de la structure. Il faut effectivement pas loin d'une demi-heure. Si on court un petit peu plus et qu'on va directement sur notre lieu de travail, parce que c'est aussi un lieu de travail, un lieu d'études, on va dire, disons qu'un gros quart d'heure suffit. Une fois qu'on est rentré dans ces fameuses étroitures là qui sont un petit peu difficiles.
La fameuse entrée difficile. Ouais. Alors quand on arrive dans cette salle principale, alors voilà,
c'est une salle assez monumentale. Hein, ils ont implanté ces fameuses structures dans la salle la plus vaste de la cavité. Il y a un aspect assez monumental, hein, c'est une salle qui fait plusieurs centaines de mètres carrés, qui est très haute de voûte, à 5-6 mètres. Et donc voilà, ces structures sont composées de stalagmites, sont installées dans la partie centrale de la salle la plus grande de la grotte. Donc voilà, il y a une sorte de mise en scène.
Alors c'est quoi les dimensions de cette salle qu'on essaie de se représenter, puisqu'on n'a pas le droit d'y aller et qu'on ne sait même pas où est l'entrée? Dites-nous ce qu'on rate.
On peut voir des bouts de films qui sont d'ailleurs en libre accès sur Internet, mais la salle est, écoutez, j'ai pas en tête les chiffres, mais c'est plusieurs centaines, je vais dire des bêtises. Donc si je dis 300 mètres carrés, on va me dire que c'est 450. Je n'ai pas révisé le métrage exact.
25 mètres sur 35 mètres,
à peu près. Voilà,
avec un plafond à 5 mètres de haut.
Un plafond qui est en moyenne à 5 mètres de haut. Je sais que la salle, effectivement, fait presque 25 mètres dans sa plus grande extension. C'est vaste. On a l'impression d'une... C'est quand on visite un monument, il y a des parties qui sont un petit peu plus spectaculaires. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu théâtral dans cette salle de la structure.
Ouais. Alors donc, avec au centre, ce que vous appelez la structure, ça a un côté un peu comme le monolithe de 2001, oui, l'Odyssée de l'espace.
En fait, oui, bon, évidemment, on entretient un petit peu ce côté extraordinaire. En fait, on a souhaité garder le nom, l'appellation d'origine, salle de la structure. En fait, il y a des structures, mais on a gardé ce nom. Alors, des structures, il y a une grande structure annulaire, voilà, qui ceinture un espace, et après, il y a d'autres structures qui sont dans la proximité topographique de la principale.
Donc, ce sont des stalagmites qui ont été coupés, empilés, disposés les uns à côté des autres en forme de cercle au centre de cette grande salle.
Oui, tout à fait. Bon, d'écrire à la radio sur deux choses, c'est toujours un exploit. Mais les hommes ont utilisé un matériau local, un matériau de construction. Or, dans les grottes, le matériau de construction le plus naturellement accessible, disponible, c'est de la stalagmite. Ouais. Et donc, ils ont arraché, ils ont basculé des stalagmites, ils les ont sectionnés, tronçonnés. On a fait de longs calculs avec un collègue, ils ont même fait une espèce de brique standard, il y a une sorte de modèle standard de matériaux de construction qu'ils ont donc déplacé. Et après, ils les ont disposés, voilà, il y a un grand cercle, un plus petit, puis il y a des structures d'accumulation avec un autre module de construction. Ils les ont disposés les unes sur les autres, jusqu'à 4 rangs.
Ouais. 400 morceaux de stalagmites qui ont ainsi été disposés. J'ai pas fait le calcul, ce sont vous ou vos collègues qui les avez fait. 2,2 tonnes de matériaux déplacés quand même. C'est pas les pyramides, mais quand même, il y a du travail de fait. Hein. On a soulevé de la masse.
Oui, les archéologues ont pour manie d'inventorier, de faire du fiche à fiche. Et donc, tous les éléments ont été décrits un par un, mesurés sous toutes leurs coutures. Et pour avoir évidemment des chiffres pour démontrer que ces structures, ces constructions étaient d'origine humaine. En langage un peu savant, on dit d'origine anthropique. Parce que, en fait, pour publier dans ces revues-là, il faut démontrer qu'il ne s'agit pas d'aménagement naturel fait par la nature ou par les ours, qui auraient pu aussi déplacer les stalagmites.
Vous, quand vous découvrez le lieu au début des années 90 pour la première fois lors de cette visite, vous pensez quoi quand vous voyez cette structure? Vous dites quoi? C'est quoi vos premières impressions, vos premières hypothèses?
En fait, j'ai un souvenir précis de ça. C'est pas vraiment... Oui, des impressions, on les a déjà évoquées, mais c'est surtout une sorte de réaction professionnelle. Comment démontrer que ces constructions sont d'origine humaine? C'est la première chose qu'un archéologue fait devant quelque chose d'un petit peu nouveau. Il y a pas de point de comparaison. Il y a pas de site avec ce genre de.
Ouais,
on peut pas s'appuyer
fois.
Sur quelque chose de comparable en disant c'est la même chose que dans la grotte de ceci ou de cela. Et donc voilà, il faut démontrer qu'il s'agit bien d'une construction humaine. Et donc voilà, on les regarde, on les ausculte, on essaye de trouver des éléments pour argumenter.
D'une certaine manière, comment il pourrait en être autrement? Quelque chose d'aussi régulier en forme de cercle empilé. Comment imaginer n'importe quel phénomène ou n'importe quel animal capable, autre que l'homme, capable de faire un tel empilement?
Oui, c'est rassurant de voir que vous êtes aussi convaincu.
Ah non, j'en sais rien. Quelles pouvaient être les autres hypothèses? C'est surtout ça ma question.
Les autres hypothèses, c'est d'abord des constructions naturelles. La nature est assez retors dans sa capacité à créer des artefacts qui ressemblent énormément aux vestiges d'origine humaine. Et donc, nous avons l'habitude, pour les périodes anciennes de la préhistoire, de démontrer qu'il ne s'agit pas de constructions ou d'aménagements naturels. Des éboulis, des colluvions peuvent créer des choses très, très surprenantes. Et puis après, il y a le passage des animaux aussi. Hein. Les ours font déplacent des choses dans les grottes, ils aménagent des bauges, donc il fallait vraiment démontrer ce côté non naturel. Nous avons réussi assez facilement. Hein,
ouais. Ce qui est amusant, c'est que Néandertal, vous le pistez aux quatre coins du globe, en tout cas vous êtes allé jusqu'en Chine pour étudier Néandertal, en Europe, dans bien des pays, et finalement il y avait, on va le comprendre dans la suite de cette émission, un véritable trésor du point de vue de la compréhension de qui était Néandertal, qui était là, sous vos pieds, à vos portes.
Oui. Si je peux faire un petit retour sur mon parcours et mes centres d'intérêt. Dans un premier temps, je m'intéresse au peuplement néandertalien. Et effectivement, je vais jusque dans le fin fond de l'Asie pour le pister vers l'Est. Et puis après, je fais une sorte de pause en m'intéressant à une appropriation du monde souterrain, mais pour des peuples plus récentes, les grottes ornées, avec la grotte de Cussac. Et donc, je quitte Néandertal pour aller sous terre pour voir des gravures et des sépultures d'un âge un petit peu plus récent. Et puis, revient sur le devant de la scène ce projet avec Néandertal, grâce à Sophie Verheyden. Et donc, je reviens à mes premières amours qui sont Néandertal. Et en plus, nous approprions le monde souterrain avec Néandertal au fond des grottes. Et ça, c'est vraiment extraordinaire.
Il y avait là, dans cette grotte de Bruniquel, un véritable trésor préhistorique. Encore fallait-il le voir. Vous allez nous raconter, Jacques Jobert, comment s'est déroulée l'enquête et en quoi elle change le regard des scientifiques sur l'homme de Néandertal. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr et bien sûr la page Facebook du Temps d'un Bivouac sur laquelle vous êtes toujours aussi nombreux à vous exprimer et à nous laisser vos messages, vos commentaires. Toute l'équipe vous lit avec beaucoup de plaisir. Fake lets you fall into a house without a word, and only the size of your breath are heard. I'm not one to go to church,
made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words. Because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words. Because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. So I guess your sigh said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life had not. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Spoken, a monster got woken up, and now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. Almost impossible to do, reciting the makings of you.
C'était Close But Not Quite sur France Inter. C'était Sampha dans Le Temps d'un Bivouac.
Nous arrivons à la salle des structures. Et ici, tu as la grande structure qui fait 7 mètres de grand axe. Alors tu vois, la grande structure est constituée aussi de stalagmites brisées, rangées. Et sur l'ensemble de ces deux structures, il y a environ 400 morceaux de concrétion qui a été cassé et rangé. Et c'est dans ce foyer que nous avons prélevé un morceau d'os d'ours brûlé. Et c'est ce morceau que nous avons prélevé qui a été daté à au moins 47 600 ans.
Nous voilà donc au cœur de la salle principale de la grotte de Bruniquel, devant cette énigmatique structure qui était là décrite par François Rousseau, qui est conservateur du patrimoine de la DRAC Midi-Pyrénées. On n'avait pas parlé de ces traces de feu exactement aussi, hein, Jacques Jaubert.
Oui, on va parler des traces de feu. Désolé de vous reprendre, c'est Michel Soulier qui est...
Ah, très bien.
C'est Michel Soulier qu'on entendait à l'instant. Oui, les traces de feu sont omniprésentes dans la salle de la structure et presque uniquement dans cette zone. Et elles sont... François Rousseau et Michel Soulier en avaient décrit deux ou trois dans la première étude et nous en avons reconnu près d'une vingtaine. Et elles sont presque toutes en partie haute, en partie sommitale de ces fameuses structures. Mais probablement qu'il y a d'autres structures de combustion sous la calcite, dans la mesure où la calcite, celle coiffe, recouvre tout l'ensemble archéologique. Donc finalement, on n'a pas vraiment accès au sol contemporain de l'aménagement. On a juste la partie immergée des constructions.
Oui, donc il y a encore des choses à trouver dans le sol, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
On espère bien, mais ça c'est quand même un petit peu le but de l'archéologie. C'est aussi de temps à autre de pratiquer au moins un sondage ou une petite tranchée de reconnaissance pour essayer d'aller reconnaître les sols archéologiques contemporains de ce qu'on étudie.
Alors comme ces structures, ces stalagmites tronçonnées, disposées, vous l'avez dit, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça ailleurs dans d'autres grottes dans le monde. Donc il a fallu leur trouver un nouveau nom, Alors comment vous avez décidé de les appeler ?
Oui, on s'est fait un peu plaisir. On a appelé ça des spéléofacts. On a eu quelques réactions de collègues qui nous ont repris. Mais finalement, c'est un terme qui a l'air d'être accepté par la communauté. Alors spéléofacts, en fait, ça désigne tous les éléments constitués de calcite, sous quelque forme que ce soit, stalagmites, stalactites, planchers, colonnes, draperies, et qui ont été choisies, prises et en partie modifiées pour être utilisées par les hommes. Mmh. Soit pour faire des constructions, comme un pour nickel, mais également, pourquoi pas, pour faire des lampes ou pour s'en servir comme outil. Enfin, à partir du moment où elles ont été transformées, il y a une appropriation de l'homme de cette calcite.
Mmh. Alors, la calcite, pour le dire simplement, on peut dire que c'est de l'accumulation de calcaire, c'est du dépôt de calcaire, ou je simplifie trop quand je dis ça?
Oui, la calcite se forme dans des environnements qu'on appelle carbonatés, et donc, voilà, s'accumule des épaisseurs plus ou moins importantes selon les environnements, et cette calcite est omniprésente dans les grottes calcaires.
D'accord.
Voilà.
Je sens qu'il y a une nuance dans la façon de présenter les choses.
J'ai l'air un peu comme ça. En tout cas, en contexte calcaire, la calcite est omniprésente, soit sous forme de draperie, soit sous forme de voile en paroi. Au sol, on appelle ça des planchers stalagmitiques. Et puis après, quand ça s'accumule de manière en colonne, ce sont des stalagmites quand ça monte et des stalactites quand ça tombe. Les termes sont bien connus.
Et tout le but de votre enquête, c'est d'essayer de dater ces structures pour essayer de comprendre qui a pu faire ça et quand ça a eu lieu, évidemment. Alors on va vous retrouver là, dans la grotte de Bruniquel, avec vos collègues, en train de vous interroger sur la couleur de la calcite qui recouvre un os.
Il y a une photo, on voit l'os en place, mais c'est bourré, c'est noir, mais c'est complètement carbonisé, il y a de la suie. On a
noir,
même l'impression que,
aussi.
Tu vois, elle est même fondue à cause de la chaleur.
C'est quasiment certain. Ouais. La première, finalement, on a un âge qui prouve l'ancienneté de l'os. Ça a donné 180 000 ans, plus ou moins 20 000 ans. Ça veut dire que l'os, il est plus vieux que ça. Et cet âge-là, en fait, est plus récent, c'est 110 000 ans. Donc avec ces deux âges, on est sûr qu'on est dans le bon sens. Donc c'est une cohérence. Cet os-là est contemporain sans doute de la structure. Et la couche de calcite, qui, même si elle est petite ici, on a eu la chance qu'on tombe sur une couche finalement ancienne. Donc ça a été très vite scellé par la calcite.
Alors, la datation, c'est un peu le nœud du problème. La première fois quand vous étiez arrivé dans cette grotte, vos collègues avaient fait les premiers travaux de datation au début des années 90. Ils avaient dit, on remonte à moins 46 000 ans en arrière ou davantage. C'était plutôt une sorte de borne qu'ils avaient posée là.
Tout à fait.
Vous, quand vous y êtes retourné avec votre collègue belge, qui est d'ailleurs plus qu'une collègue, c'est la meneuse, c'est elle qui a eu l'idée d'y retourner, qui a dit il y a forcément des choses plus intéressantes que ce qu'on a dit là-dedans, il faut y aller. Elle a monté cette expédition, en quelque sorte, cette mission. Et alors là, quels outils vous avez utilisés pour préciser la datation des lieux ?
Dans les années 90, la méthode que nous utilisons actuellement faisait ses premiers débuts. On aurait pu déjà faire des prélèvements de calcite et donc confier ça à un laboratoire avec une méthode qui s'appelle l'uranium-thorium. Mais à l'époque, il aurait fallu en prendre plusieurs kilos. Or maintenant, évidemment, avec le progrès de la science, ça s'est miniaturisé. Et donc, on fait des prélèvements qui sont millimétriques, qui sont gros comme des têtes d'épingle ou un petit peu plus. Et donc, c'est cette méthode dite uranium-thorium qui permet de dater l'âge de croissance de la calcite, l'âge de dépôt de la calcite. Donc, c'est extrêmement précieux parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on est dans un environnement où la calcite est omniprésente. Ouais. Elle recouvre les constructions, elle a servi de matériau aux constructions. Donc voilà, on peut prendre en sandwich l'âge de la construction en datant. Ouais. Le matériau qui a servi à la construction, ça donne un premier terminus, et en datant les dépôts
qui
scellent les constructions. Et donc, ça, c'est le rêve de l'archéologue, c'est de prendre en sandwich le niveau archéologique qu'il étudie, dans la mesure où le niveau qu'on étudie, on n'a pas d'éléments directs à dater.
Donc on comprend bien, en gros, vous datez les briques, qui sont morceaux de stalagmites tronçonnés, et vous datez aussi les dépôts, la poussière qui s'est rajoutée sur la construction, et comme ça vous dites, fait, bah, on a l'âge des briques, on sait ce qui s'est reproduit dessus.
Cher ami, encore faut-il avoir un soupçon de chance, mais ça, bon, voilà, c'est aussi le hasard de la science, parce qu'on aurait très bien pu avoir, je vais forcer le trait pour qu'on comprenne, mais un âge de 1 million d'années pour les briques et un âge de 10 000 ans ou de 4 000 ans ou de 350 ans pour ceux qui scellent. Et on serait entre 1 million et 350 ans. Ouais. Avec ça, on n'aurait pas été très avancé pour préciser l'âge. Ouais. Or là, l'âge le plus ancien et l'âge le plus récent donnent une date qui est pratiquement interchangeable, en tout cas à l'échelle de nos périodes. Voilà, on est entre 178 et 175 000 ans, donc c'est très précis pour nous.
Voilà, le verdict est lâché.
Le verdict est tombé. 175 000. Oui, maintenant, cette nouvelle est un petit peu éventée. Donc, oui, 176 000 ans à peu près, plus ou moins 2000 ans. Quoi.
Mais il faut se rendre compte de ce que vous êtes en train de dire, parce que 176 000 ans en arrière, si on prend Lascaux, si on prend Chauvet, Lascaux, c'est quoi ?
On va donner des dates. Lascaux, c'est un petit peu plus de 20 000 ans. On dit 20 000 ans pour arrondir, mais c'est plutôt 20 500 ou 21 000 ans Lascaux, avant le présent. Les préhistoriens ont bien parlé en avant le présent. Le présent, c'est aujourd'hui ou 1950 si on a des âges carbone 14. Et Chauvet, c'est 36 000 ans avant le présent. Et là, on est 176 000 ans avant le présent. Oui. Donc, effectivement, on a rajouté 130 ou 140 000 ans à l'âge de Chauvet.
Il y a 130 000 ans qui séparent ce qui s'est passé à Lascaux de ce qui s'est passé dans cette grotte de Bruniquel.
À peu près.
On est d'accord qu'à cette époque-là, Sapiens, l'Homo sapiens, il n'est pas dans les parages. C'est pas lui qui a pu faire le coup, là. Hein.
Voilà. Quand on a ce résultat, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce résultat. Je l'ai dit et répété sur toutes les antennes et dans certains journaux. Franchement, moi, j'aurais signé pour un âge peut-être à 30 000 ans. Nous aurions été très contents les uns et les autres si on nous avait dit 30 000 ans ou 35 000 ans. Voilà, on aurait été contemporains de Chauvet ou légèrement plus récents, plus anciens. Mais 176 000 ans, on est bien au-delà de la disparition de Néandertal. Néandertal disparaît en Europe à peu près vers 42 000 ans avant le présent. Donc là, avec 176 000 ans, on n'est même pas chez Néandertal, hein, on est chez des représentants parmi les plus anciens de la lignée néandertalienne.
On est chez des sortes de néandertaliens primitifs, en quelque sorte.
Oui, ils ne sont pas trop qualifiés d'ailleurs. On parle plutôt de néandertaliens anciens pour les distinguer des néandertaliens classiques qui sont ceux qu'on connaît le mieux par la chronique anthropologique.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette construction, c'est la plus ancienne que l'on connaisse à la surface du globe. On peut le dire comme ça, construction humaine.
Presque. Il y a d'autres constructions à peu près aussi anciennes, voire un petit peu plus anciennes, mais il faut voir que toutes ces constructions sont incroyablement mal conservées. Mmh. Ce sont des constructions en lambeaux que seuls des miracles de la conservation ont pu nous faire parvenir. Et Bruniquel, ben c'est une chance parce qu'on est dans un environnement très stable et donc ces constructions ont été maintenues à peu près en l'état. Mmh. Alors il y a un petit peu plus ancien que Bruniquel, mais Bruniquel, ce sont les plus anciennes en contexte de grotte.
Ouais. Alors, vous nous dites... Ce sont vraisemblablement des hommes de Néandertal anciens qui ont édifié ces structures. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit sur les hommes de Néandertal anciens ? Parce que jusqu'à maintenant, déjà on ne pensait pas qu'ils vivaient dans des grottes ou en tout cas qu'ils s'y étaient aventurés. Donc tout d'un coup, spéléologues. Et en plus, là, ils ont cherché à construire quelque chose. Donc... On ne les croyait pas capables de ça, tout simplement.
Oui, j'aime bien ce terme de spéléologue. Il nous a déjà été plusieurs fois évoqué. C'est vrai que la spéléologie, c'est l'action d'aller parcourir le milieu souterrain pour différentes raisons. Ce n'est pas seulement sportif. La spéléologie, ça peut être aussi dans des buts d'études. Et donc, les Néandertaliens sont les premiers spéléologues. Ce sont des paléospéléologues, en tout cas. Ouais. Ce sont eux les premiers, en tout cas avec cette découverte de Bruniquel, qui se sont appropriés ce monde souterrain qui, rappelons-le à nouveau, c'est un monde qui n'est pas naturellement dans la géométrie, dans le bilan de toutes les populations sur Terre. Il y a des groupes qui ne vont jamais sous Terre, qui ne pénètrent pas dans le milieu, parce que c'est un milieu qui est obscur, qui est peuplé d'animaux dangereux, qui peut faire peur. Il y a des esprits malins ou je ne sais quoi qui peuvent terroriser des groupes. Et donc, il y a beaucoup de populations qui ne vont pas sous Terre, qui se l'interdisent, qui considèrent ce milieu comme tabou. Et donc, le fait de s'en affranchir, c'est quelque chose d'assez intéressant et de mettre ça au crédit de Néandertal, c'est tout à fait inédit.
Alors, que sont-ils allés faire sous terre ? Est-ce qu'on a des pistes, des réflexions ? On va s'intéresser aussi plus précisément au cas de cet homme de Néandertal, hein, que l'on a trop eu tendance à rabaisser par rapport à nos ancêtres directs, Homo sapiens. C'est vrai que Néandertal, il est plus là pour se défendre, donc les absents ont toujours tort. Nous allons essayer de réparer cette injustice dans un instant.
Je suis resté 15 minutes, la tête ancrée dans le bitume. Je me suis noyé dans les rues en enchaînant les boulevards. comme si y avait au fond quelque chose à y voir. Une fucking interprétation de son sourire au coin du bar. En dansant dans la street, j'ai fait cracher mes poumons pour qu'ils vident l'envie qu'ils avaient de crier, de ne plus jamais la voir disparaître la nuit, s'envoler dans les ombres. Comme au tout premier soir.
Up chante Soleil Noir dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
Les hommes à la face peinte ont peur de moi. Je ne les connais pas. Jeune chef, j'ai aperçu ces mêmes silhouettes fines et élancées à la crête des collines. Mais jamais je n'ai pu les voir d'aussi près. Suis-je un monstre, pareil à une de ces bêtes qui ne sortent que la nuit? Pourquoi me rejette-t-il? Je suis seulement différent d'eux.
Extrait du film Ao, le dernier Néandertal, Jacques Jaubert. C'est un film qui essaye d'imaginer ce qu'a pu être une rencontre entre le dernier homme de Néandertal et les Homo sapiens, sapiens qui étaient en train de s'installer, de s'imposer dans les mêmes régions que lui. Là, on est dans la tête, on imagine des états d'âme de Néandertal qui se sent rejeté et différent. Quel regard vous portez sur cette façon d'imaginer la rencontre entre les deux? Déjà, est-ce qu'ils se sont vraiment rencontrés?
Oui, nous en avons la confirmation. Il y a longtemps qu'on flirtait sur cette crête de savoir si, oui ou non, Néandertal et Sapiens avaient cohabité, s'étaient rencontrés et avaient même échangé. Et maintenant, nous avons la démonstration, grâce à la paléogénétique, qu'il y a bien eu des échanges.
Ah oui.
Il y a eu des échanges entre les deux espèces. Alors ces échanges, on débat encore de la date exacte, mais grosso modo, on est vers 70 000 ans avant le présent. Et la chose qui, à mon avis, la plus certaine, c'est le lieu de ces échanges. Mmh. Ce lieu, c'est le Proche-Orient, le Proche et le Moyen-Orient. Dans la mesure où les hommes modernes sortent d'Afrique, ils sont aux portes de la sortie d'Afrique, c'est une énième sortie d'Afrique, ils sont déjà sortis avant. Mais... Et puis, les Néandertaliens, eux, sont en Eurasie du Nord, et de temps en temps, ils descendent un petit peu plus au sud, vers le Proche-Orient. Et donc, ils rencontrent les Homo sapiens dans cette région.
Et donc, quand vous dites qu'ils ont échangé sur le plan génétique, ils se sont accouplés, ils ont eu des petits.
Ils ont eu des petits, puisque vous et moi, dans ce studio, studio et tous les gens qui sont à l'extérieur de ce studio également, me semble-t-il. Je jette un regard pour voir. Mais oui, nous avons un pourcentage d'héritage néandertalien qui est entre 1 et 2% pour toutes les populations eurasiennes, européennes, chinoises, mélanésiennes, nord-amérindiennes. Il n'y a que les Africains purs, jamais métissés, qui n'ont pas d'héritage néandertalien. Puisque voilà, toutes les autres populations ont croisé à un moment donné par ancêtre interposé Néandertal.
Alors à ce stade de l'émission, il est peut-être utile quand même de rappeler que Néandertal, ça n'est pas notre ancêtre, même si on a un petit peu, du coup on l'est un petit peu
par quelques gènes. À hauteur entre 1 et 2%, c'est en partie notre ancêtre.
C'est en partie, effectivement, je l'ai mal formulé.
Ça change un tout petit peu la donne, oui.
Mais qu'à une certaine époque sur Terre, ont coexisté différentes espèces humaines. C'est-à-dire qu'on a du mal à le représenter, puisque maintenant nous sommes les seuls, on a l'impression que c'est une lignée toute droite avec une évolution. En fait, ça a été buissonnant et on est les derniers représentants de la famille humaine.
Oui, je ne sais pas si c'est inquiétant ou non d'être les derniers et les seuls représentants du genre humain, parce que donc il y a le genre Homo, et après se déclinent différentes espèces. Néandertal est une espèce, Erectus, Ergaster, les Denisoviens sont des espèces. Et donc, effectivement, il fut un temps où il y avait 2, 3 et peut-être même 4, alors je dis humanité pour faire court, enfin, espèces qui cohabitaient, coexistaient sur différents territoires. Donc, pour faire court, il y avait les sapiens archaïques en Afrique, il y avait les Néandertaliens en Eurasie, je dis en Eurasie, juste très très loin vers l'Est. Après, on avait certainement des Denisoviens quelque part en Asie, et il y a même peut-être une espèce qu'on appelle Floresensis qui est quelque part dans un archipel d'Indonésie entre l'Australie et la Malaisie. Et donc, il y a au moins 3 ou 4 humanités qui coexistent. Et il y en a une qui, de temps à autre, sort de sa région et donc elle va rencontrer les autres, et notamment les Néandertaliens.
Et alors, ces Néandertaliens, pendant longtemps, c'est en train de changer, mais on les a, bon, disons-le clairement, considérés comme des brutes épaisses, des simples d'esprit par rapport à nous, les Homo sapiens, bien évolués. Et on est en train de se rendre compte qu'on s'est peut-être un peu planté.
Oui, mais ça, c'est l'héritage d'une histoire. Comment dire, on a peut-être découvert trop tôt Néandertal, qui a été découvert en 1856, défini un petit peu plus tard. Les premières reconstitutions sont du début du XXe siècle. Et donc, très rapidement, Néandertal s'est imposé dans l'imagerie comme le chaînon manquant entre les grands singes et l'homme actuel, pour faire court. Et donc, voilà, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, c'était la bête féroce intermédiaire entre les grands singes et l'homme moderne. Et depuis, évidemment, le schéma s'est infiniment complexifié et surtout, Néandertal, peut-être comparé à des hommes modernes à peu près contemporains d'Afrique, et on voit que leur degré d'évolution, leur niveau technique, symbolique, leur capacité à innover est à peu près le même. Et donc, il n'y a pas un retard de Néandertal par rapport à des hommes modernes africains, du même âge en tout cas.
On peut imaginer, pour revenir à cette grotte de Bruniquel, dans laquelle Néandertal a édifié cette structure. Est-ce que j'extrapole trop ou on peut imaginer qu'il y a là des croyances qui se cachent derrière cette... voilà, on voit, il y a une mise en scène, un cercle, on voit des traces de feu autour, on est au centre d'une salle qui elle-même se trouve au centre de la grotte. Voilà, on peut faire quand même marcher la machine à croyances dans ce dispositif.
Oui, la machine à croyance a déjà été enclenchée par certains collègues que je respecte infiniment, qui sont de très bons préhistoriens. Jean Clotte, un chercheur, un ethno-préhistorien canadien qui s'appelle Brian Hayden, qui est prof à Vancouver, a déjà interprété les structures de Bruniquel avant la reprise de nos travaux comme un lieu de culte de Néandertaliens qui s'était approprié ce monde souterrain. Alors, ce qui est un petit peu gênant par rapport à ces hypothèses, qui sont assez séduisantes, c'est qu'on n'a pas de démonstration archéologique, ce qu'aiment bien quand même les scientifiques, complètement aboutie pour confirmer cette hypothèse. Actuellement, on est plutôt dans un travail pour essayer de réunir le maximum d'éléments, pour essayer, sinon d'aller vers cette hypothèse, au moins d'éliminer toutes les autres, ou le maximum d'entre elles, pour n'en garder in fine qu'une seule. Et peut-être ça sera celle-là, mais il n'y a pas que cette hypothèse-là pour les structures.
Alors, ça pourrait être quoi d'autre ?
Bon, on a évoqué des structures de stockage. Par exemple, pour stocker de l'eau, on fait des barrages. Et ça, dans une période d'extrême sécheresse, il n'est pas impossible qu'une grotte soit un réservoir naturel pour conserver de l'eau. Et donc, alors c'est évidemment infiniment moins romantique, une structure cultuelle et avec une mise en scène très réfléchie. Mais ça peut également être une structure de stockage. Donc voilà, on travaille à ces différents chantiers.
Alors Néandertal, philosophe est-il ? En tout cas, nous, cette année, on part chaque semaine marcher avec les philosophes.
Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. On est ici pour profiter de la nature. D'accord ?
Bonjour Sven Ortoli.
Bonjour.
Rédacteur en chef des hors-séries Philosophie Magazine avec ce numéro d'été Marché avec les philosophes. La question du jour, je marche donc je pense. Tout un programme.
Tout un programme parce que fondamentalement nous sommes une race de marcheurs. Il suffit de faire la liste depuis Lucie, depuis que nos premiers ancêtres se sont levés il y a 3 millions d'années. La liste de tous ceux qui ont marché depuis est immense. Ça fait une sorte de caravane au Sahara du monde, dit le poète Théophile Gautier très joliment. Une caravane qui conduit du Rift, en Afrique, il y a 3 millions d'années, à la Silicon Valley aujourd'hui. Puisque, comme vous le savez, la marche a envahi notre monde aujourd'hui. Tout le monde pratique la marche. Enfin, beaucoup de gens pratiquent la marche, en particulier en France. Et notre spécificité, à nous autres les humains, c'est nous sommes des marcheurs qui pensent.
Alors pourquoi c'est lié, finalement, marcher et penser ?
Parce que c'est la bipédie, le fait de se lever, qui a libéré la main. Vous libérez la main, ça permet de développer la technique. Le paléoanthropologue Leroy Gourhan, qui a été un des premiers de son côté à s'intéresser à cette question, dit « Le départ de l'évolution humaine n'a pas été pris par le cerveau, mais par les pieds. » Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le développement du cerveau n'est que la conséquence de la station verticale. Je marche, donc je pense, ouais. C'est ce que vous exprimez au début.
Alors il y a des auteurs qui ont eu cette intuition de l'importance de la marche. Vous en citez quelques-uns ?
Oui, Montaigne qui dit « Mon esprit ne va si les jambes ne l'agitent ». Et puis Rousseau, bien sûr, et puis Nietzsche qui s'énerve contre Flaubert parce que Flaubert a eu le malheur d'écrire « On ne peut penser et écrire qu'assis ». Et Nietzsche lui réplique « Je te tiens nihiliste, être cul de plomb, voilà par excellence le péché contre l'esprit ». Bon, c'est Nietzsche, il s'emporte, etc. Mais tous, ils pensent. Enfin, ou presque tous pensent ça.
Ouais. Alors, il y en a d'autres qui étaient, on va dire, plus réservés sur l'utilité de marcher.
Il y en a même qui sont carrément ironiques, comme Balzac. Balzac dit qui de nous pense à marcher en marchant ? Et personne. Bien plus, chacun se fait gloire de marcher en pensant. Alors, bien sûr, on ne fait pas que marcher en pensant. Et quelquefois, on marche l'esprit totalement vide. Et c'est plus tard que la pensée peut naître. Parce que il y a toutes sortes de marcheurs. C'est une église qui est pleine de gens très différents. C'est une église qui est pleine de gens très différents. Mais si vous voulez que je la répartisse en deux églises, il y a ceux qui marchent pour se vider l'esprit et ceux qui marchent pour se le remplir. Mais en réalité, ce qu'on dit, on marche pour se vider l'esprit, on marche pour filtrer, pour arriver à quelque chose d'élémentaire. Et quand on touche à l'élémentaire, on touche à ce moment dans la marche où on oublie pourquoi on marche. On est fatigué, il y a de la sueur, on entend les sons, mais on est focalisé sur un pied devant l'autre. Et puis tout d'un coup, c'est ce que dit très joliment Virginia Woolf, les pensées en marchant sont faites à moitié de ciel. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a une espèce de synesthésie, c'est-à-dire on s'immerge dans le monde qui nous entoure. Et ça, là, on touche à l'élémentaire. Et c'est ce moment entre le ciel, entre l'immense et le minuscule, ce moment où tout d'un coup, on est accroché au cosmos, on n'est plus sans rien. Hugo, quand on lui demande où vas-tu, répond « Je l'ignore et j'y vais ». Ça résume bien.
Merci Sven Ortoli pour approfondir cette très jolie question. Je marche donc je pense. Il y a donc ce hors-série Philosophie Magazine, Marcher avec les philosophes, dont nous sommes partenaires. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Jacques Jaubert, je voudrais avoir l'avis du préhistorien que vous êtes sur ce lien entre la marche et la pensée, l'intelligence. Finalement, ce qui unit toute la grande famille humaine dont vous parliez, c'est qu'ils marchaient tous.
Ah mais bien volontiers. Enfin, j'aime bien ce clin d'œil parce que justement, je vais peut-être pas répondre directement à votre question, mais je vais l'alimenter en une information. J'encadre avec un collègue qui est spécialiste de la bipédie, de la marche, qui s'appelle Gilles Berrion, une thèse sur les empreintes de pas dans les grottes. Et donc voilà, c'est de pister, on appelle ça l'ichnologie, c'est l'étude des empreintes. Et donc cet ichnologue qui s'appelle Lisiana Ledoux travaille sur les empreintes de pas dans les grottes ornées. Alors on espère également trouver à Bruniquel. Évidemment, la marche est très importante pour nous. Et l'analyser et disserter sur la marche, bien sûr, c'est très important pour un préhistorien.
Dans un instant, Jacques Jopert répondra aux questions que vous lui avez adressées sur franceinter.fr et la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
What a wonderful world. C'était Louis Armstrong sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Je fouille
sur France Inter.
Oh, quoi?
Daniel Fievé.
Rien, rien, je m'entraîne pour quand je trouverai un truc.
Le temps d'un bivouac.
Ah ouais, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit ou même juste pour boire un coup, passez à ma grotte.
Et on a déjà trouvé des questions, Jacques Jopert, qui sont arrivées pour vous sur la page Facebook de l'émission. C'est Yveline qui vous demande: avez-vous trouvé une entrée possible pour le néandertalien? Et si oui, à quelle distance de la grande salle? Je suppose, dit-elle, qu'il ne rentrait pas par la petite chatière, ce trou que vous avez décrit pour rentrer à l'intérieur de la grotte.
Non, effectivement, hors de question. Et la réponse est oui, il y a au moins une entrée potentielle, et peut-être même deux d'ailleurs. Une entrée, mais qui est entièrement colmatée. Par les sédiments, par les éboulis, par les effondrements d'un porche qui s'est naturellement éboulé et donc qui a fait disparaître sous les sédiments un ancien porche qui devait être assez grand, assez monumental, parce que nous devinons ce porche de l'intérieur. Mmh. Et le versant est entièrement colmaté et donc il y a un versant qui est réglé. On ne devine plus le porche d'origine, mais bien sûr il y avait un porche tout à fait spacieux pour Néandertal.
C'est ce qui explique peut-être que finalement cet endroit si ancien et traverser le temps aussi bien conservé. Finalement, il a
Exactement.
Été scellé par le temps et les éboulements.
Exactement, c'est le même schéma qu'à la grotte Chauvet-Pont d'Arc ou d'autres, ou Lascaux au moment de sa découverte. Effectivement, à partir du moment où une grotte est fermée naturellement, ou peut-être les hommes ont un petit peu aidé à cette fermeture, eh bien c'est les conditions maximales pour la préserver à travers le temps. Les grands carnivores n'y pénètrent plus, et donc elle reste dans son jus, elle est conservée en l'état pendant des dizaines de millénaires, puisque ce sont des milieux qui sont terriblement stable.
Ouais. Une autre question qui revient sur Internet, c'est comment et pourquoi Néandertal a disparu? On a dit, hein, ils ont
Mon
été...
Dieu, l'horreur absolue pour la fin de l'émission.
Ah bon?
Mais c'est la question la plus débattue, avec peut-être des dizaines de réponses. Donc là, en 30 secondes, pourquoi Néandertal a disparu, c'est un défi. Disons que la réponse que je fais habituellement, c'est qu'il n'y a pas une réponse, mais il y en a plusieurs. Ouais. C'est probablement l'addition de plusieurs éléments qui fait que Néandertal a disparu. Ouais. C'est pas un coup de froid, c'est pas une crise climatique, c'est pas la confrontation avec les hommes modernes. Oui, bien sûr, c'est un petit peu tout ça, mais il y avait certainement des signes avant-coureurs. Nous identifions dans la chronique archéologique une sorte d'affaiblissement de la documentation pour les sites les plus récents. Mmh. Et donc, il n'est pas impossible que Néandertal avait déjà commencé un petit peu à s'essouffler, comme toutes les espèces, parce qu'on parle beaucoup de la disparition de Néandertal, mais toutes les espèces ont vocation à disparaître. D'ailleurs, c'est un peu inquiétant pour nous, entre parenthèses. Hein, mais...
Est-ce qu'on pourrait être responsable de sa disparition? Est-ce que c'est nous, notre essor, notre développement? Si nous n'avions pas été là, est-ce qu'il serait encore là, pour le dire simplement?
En partie, probablement, parce que la nature a horreur du vide et la nature n'aime pas non plus les confrontations entre des super prédateurs, et avoir deux espèces dans le même environnement, c'est souvent assez compliqué. Et malheureusement, l'homme moderne, et pas qu'avec Néandertal, a démontré à plusieurs reprises qu'il était capable d'exterminer les siens en Tasmanie, en Amérique et d'autres, et dans d'autres lieux que je ne rappellerai pas, hélas.
Alors, vous nous avez expliqué que cette grotte de Bruniquel, on l'a découverte dans les années 1990, et finalement on a compris tout l'intérêt qu'elle représentait que très récemment. Est-ce qu'il y a d'autres grottes qui pourraient livrer de pareils secrets à venir? Alors il y a peut-être même des choses que vous savez déjà mais qui n'ont pas été publiées et qu'on n'arrivera pas à vous faire avouer, mais je ne sais pas, je dis ça complètement pour essayer de... je prêche le faux pour savoir le vrai. Est-ce qu'il y a des découvertes à venir?
Dans Bruniquel?
Ou ailleurs, dans d'autres grottes?
Alors, dans Bruniquel, oui, bien sûr. Ah. Oui, il y a de nouveaux éléments, tout simplement parce que nous n'avons étudié pour le moment que la salle de la structure, et nous concentrons maintenant, nous prospectons le reste de la galerie, et donc cette galerie était quasiment inviolée, donc nous découvrons, au fur et à mesure que nous menons des campagnes, différents éléments du passage des animaux, pas mal, et des hommes, un peu.
Ouais. Et dans d'autres grottes alentour?
Alentour, si c'est alentour proche, les gorges de l'Aveyron sont gavées de sites archéologiques potentiels à découvrir. Donc ça dépend plutôt de l'activité des spéléologues et du maire général, le sud-ouest de la France, et puis l'Espagne, et puis l'Europe. Mais moi, je crois beaucoup, je travaille un petit peu en Asie orientale, je crois beaucoup à des déserts archéologiques comme certaines régions d'Asie centrale, de Chine. Quand la Chine va commencer à faire de la préhistoire, je pense qu'on va réviser un peu nos chroniques.
Ah oui. Donc vous êtes impatient de pouvoir...
Mais non seulement je suis impatient, mais j'y contribue, parce qu'on a un projet avec les Chinois sur le nord de la Chine pour essayer justement de pister Néandertal un petit peu plus loin vers l'est que l'Altaï.
Il faudra revenir, quand vous aurez des premiers résultats, il faudra revenir nous raconter tout ça. On ne peut pas visiter cette grotte de Bruniquel, on l'a dit. Alors il y a des films sur Internet, on pourra mettre quelques liens sur la page de l'émission. Il y a aussi, au château de Bruniquel, une salle d'exposition où on peut en apprendre un petit peu.
Oui, il y a effectivement une exposition qui est encore provisoire, mais les collectivités ont compris l'intérêt qu'elles avaient à essayer de faire accéder au plus grand nombre ce que nous avons compris et trouvé dans Bruniquel. Et il y a un projet assez ambitieux de restitution et de visite virtuelle, comme on le fait maintenant, avec des facsimilés ou d'autres techniques très contemporaines.
Jacques Jaubert, je ne sais pas ce qui vous a donné le goût du voyage, de l'exploration. Peut-être certaines de vos lectures étant petit. Vous me voyez venir avec mes gros sabots pour annoncer la deuxième heure. Est-ce que vous lisiez Tintin quand vous étiez petit?
Oui, je suis un lecteur de Tintin. Ça vous arrange, mais j'ai pas beaucoup de mérite d'être un lecteur de Tintin dans la mesure où ma mère est belge et j'ai un souvenir très précis du jour et presque de l'endroit où mon père m'a acheté le premier Tintin à Bruxelles.
Ah oui.
Et c'était Tintin au Tibet. Et je suis resté un fidèle lecteur de Tintin.
D'accord. Est-ce qu'il y a un peu de ce Tintin en vous aujourd'hui quand vous partez jusqu'en Chine pour...
Je sais pas quel regard vont porter mes collègues quand je vais revenir à Bordeaux à l'université.
On va vous valoir un surnom. Je présente les deux invités de la deuxième heure qui se sont assis en face de vous. Il y a Benoît Peeters et Michel Pierre. Bonjour à tous.
Bonjour.
Les deux.
Bonjour.
Tous les deux spécialistes de Hergé et de Tintin. Est-ce qu'il y a une histoire de Tintin qui se passe dans une grotte préhistorique ou qui se passe dans des souterrains qui vous reviendraient en tête pour faire le lien avec cette première heure?
Ça ne manque pas de grotte, Tintin. Il y a une grotte qui n'est pas préhistorique dans Tintin au Tibet, mais qui joue un rôle essentiel.
Oui. Avec
puis,
le Yéti.
Il y a des grottes dans Vol 714 pour Sydney qui débouchent sur un monde inconnu, sur les communications avec une autre civilisation.
Oui. Il y en a même une autre sur la Lune.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a une grotte sur la Lune également. Effectivement, ça ne demande pas de grotte. Puis il y a aussi
on a une autre dans l'île Noire encore, hein, qui est un repère de faux monnayeurs. Donc vous voyez beaucoup de grottes, mais on trouve le monde entier.
Celle de Tintin me plaît bien.
C'était le test pour être sûr qu'on avait affaire à deux spécialistes autour de la table. Ça ne se dément pas, Benoît Peters et Michel Pierre. Vous allez nous emmener dans cet univers de Hergé et de Tintin dans la deuxième heure du temps d'un bivouac. Un grand merci à vous, Jacques Jaubert, d'être venu depuis Bordeaux jusqu'à nous pour nous raconter cette grotte de Bruniquel. Je vous souhaite un bon retour.
Je vous en prie, avec plaisir.
Au revoir.